Hexagone, l'émission qui va au cœur de l'univers du sport, en partenariat avec la FFCO.
Bonjour François.
François.
Philippe.
Philippe.
Et Freddy.
Et Freddy, alors parlez-moi de vos ateliers. Qu'est-ce que vos ateliers ?
Alors moi, mon atelier, l'atelier que j'ai animé, c'est... Donc là, il est déjà passé.
Oui, c'était
C'était l'atelier pour la création d'une école omnisport à l'évaluation de ses contenus.
D'accord.
Donc parler de l'omnisport,
ouais.
Donc la pratique physique pour tous. Et comment évaluer les bienfaits, comment évaluer le développement moteur et psychomoteur de l'enfant pour arriver à pratiquer toute sa vie.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas suffisamment d'enfants, de clubs d'enfants dans les clubs omnisports. C'est encore un peu léger.
Alors, pour ma partie, moi je viens de Lille.
Oui, tu viens de Lille, dans le Nord,
oui.
D'accord.
Donc nous, c'est un gros club, donc
oui.
On peut dire que oui, quand même, il y a... C'est développé pour
ouais.
l'e-sport. Ce n'est pas vrai dans toutes les localités. Après, il y a beaucoup de clubs qui sont très spécialisés et qui regardent l'omnisport d'un œil différent. Ils ne sont pas encore enclins à mettre en place des séances omnisport.
D'accord.
Je pense à des clubs de foot, par exemple, qui quand ils voient arriver un éducateur sportif qui commence à faire des échauffements autres qu'avec un ballon de foot, tout de suite, ils regardaient un peu d'un œil curieux.
D'accord, en fait, pour l'instant, aujourd'hui, on va plus privilégier du coup le foot, si je comprends bien, que le club omnisport, c'est ça, que l'activité omnisport.
Par exemple.
Ouais, par exemple.
Après, c'est, voilà, l'omnisport, ça arrive. Alors nous, on fonctionne très bien, donc on va pas dire non, ça ne marche pas. Mais la démarche, c'est de montrer, de démontrer, comme disait tout à l'heure la personne avant, de démontrer que l'omnisport permet de développer toutes les capacités nécessaires ensuite à une spécialisation.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ensuite, nous avons
Philippe. Donc,
Philippe Clermont-Ferrand.
C'est ça.
Ah,
section tennis de table au stade Clermontois Omnisport.
D'accord.
Et donc, on a échangé sur l'apport de la technologie dans la pédagogie pour le développement de l'activité sportive. Avec, on a la chance au tennis de table d'avoir le ping virtuel, une activité, une simulation qui permet de voir un aspect ludique, de pratique pour amener des jeunes vers la pratique réelle. Mais également, on fait des explorations d'usage de cette simulation-là dans l'entraînement lui-même pour des apports sur, en particulier, l'activité, l'intensité physique ou des choses comme ça. Donc, on fait des explorations, comment utiliser la technologie au plus proche du réel, parce que l'objectif, ce n'est pas de remplacer le réel par le virtuel.
Bien sûr. C'est pour amener une autre, on va dire, un autre public ?
Alors, c'est pour amener un autre public ou en tout cas de ramener des gens qui sont un peu éloignés de l'activité physique parfois, en particulier dans les jeunes qui sont plutôt sur les jeux et la sédentarité.
Bien sûr.
Et de les rapprocher quelque part à travers cette simulation. Puisqu'il y a le côté jeu au départ, mais finalement, quand ils rentrent dedans, on est vraiment plus qu'un jeu. Ce n'est pas un jeu d'arcade, c'est vraiment une simulation. Et de les amener à une pratique déjà qui physiquement est intense. Et les amener en fait à une salle de sport pour jouer avec d'autres personnes en vrai.
Bien sûr, après la passerelle, c'est d'aller jouer en physique avec sur le tour d'une table, je suppose.
Tout à fait, tout à fait. Alors, pas mal d'animations pour les amener dans la salle. On fait pratiquer aussi les jeunes dans la salle elle-même, puisque finalement, on peut mélanger les deux. Et d'amener des jeunes dans la salle, c'est jouer en virtuel, mais derrière, il y a une table et d'aller essayer sur la table. Voilà,
bien sûr.
Redonner le goût de revenir dans les salles de sport.
Bien sûr, et c'est comme être licencié.
Alors, la section tennis de table, c'est 235 licenciés aujourd'hui. En virtuel, on a, on va dire, allez, 5 à 7% des gens qu'on a eus sur l'année dernière qui nous ont rejoints pour finalement pratiquer en vrai.
Ah, c'est bien, c'est une belle idée. Comment est née cette idée d'ailleurs ?
Elle est partie d'un cadeau de Noël que j'ai eu à titre personnel.
D'accord.
Je me suis mis à jouer et finalement, j'ai découvert que j'avais envie de repratiquer intensément le tennis de table à travers cette simulation. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, je fais des compétitions internationales de e-sport. Et puis, pourquoi pas le mettre au service en fait, de la section et de l'omnisport. Et voilà, l'idée est partie comme ça. Et aujourd'hui, on explore différentes pistes. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent un peu moins bien en termes d'appropriation par les gens. Mais voilà, c'est vraiment une expérience intéressante et un peu au goût du jour par rapport à
l'e-sport.
Oui, l'e-sport,
bien sûr, bien sûr. Et ensuite, nous avons...
Freddy.
Alors, mets-toi bien juste en face comme ça.
Ouais.
Dans... Voilà,
c'est
parfait.
Bon,
ouais, c'est bon.
Parfait.
Donc, c'est... sur quelle activité sommes-nous ?
Moi, j'étais sur l'activité physique autrement à l'école.
Autrement à l'école, autrement, donc d'accord.
Quelque chose de différent, donc sur le niveau primaire avec un concept et sur le secondaire. Donc sur le primaire, on est sur un concept qui s'appelle les pauses actives.
D'accord.
C'est qu'aujourd'hui à l'école, il y a le PESC.
Ouais.
Voilà, 3 heures de PS à l'école primaire. Mais en même temps, depuis 2 ans, suite au Covid, ce qu'on appelle les 30 minutes APQ, activité physique quotidienne, que doivent mettre en place les enseignants pour faire bouger les enfants en plus de l'EPS. Donc là, on propose un concept qui a pour but de faire bouger les enfants dans la classe.
D'accord.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, de par la formation des enseignants, de leur spécificité, avec l'importance des maths et du français, on a du mal à faire sortir des fois les enfants par manque de temps. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, je me lève, je suis un enfant, je me lève, je range ma chaise, je me mets derrière la chaise, et c'est parti, on bouge pendant 15 minutes. Et là, l'idée, c'est de reproduire ça régulièrement dans la journée, dans la semaine, de telle manière qu'on essaye de lutter contre la sédentarité chez les enfants, qui est de plus en plus importante.
Donc, c'est un message que tu portes dans les écoles ?
Tout à fait. Alors, c'est un message, on a des éducateurs sportifs qui viennent pour animer la séance,
ouais,
pendant 15 minutes. Et évidemment, après, se déplacer, puisqu'on se déplace sur toute l'Auvergne,
ouais,
faire 1h30 de voiture pour faire 15 minutes, du coup, on a utilisé ce qui s'est passé un peu pour nous, comme pour tout le monde, je pense, pendant le Covid, quand on travaillait en visio, beaucoup de visio.
Ouais.
On a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire des visios à distance, puisque toutes les écoles sont équipées de tableaux interactifs. Et donc là, le coach, il intervient de chez lui, ou du club, et il fait une séance à distance. Sauf que comme dans les visios, finalement, des fois, on faisait la visio à 2, à 3, à 4, à 5. Mais pourquoi, au lieu de faire une classe, en faire 2, faire 3 et 4 en même temps? On est arrivé jusqu'à, en fait, 4 en même temps. Donc, du présentiel, on est passé au distanciel pour toucher plus d'enfants dans l'activité. Et finalement, on a encore évolué dans le dispositif où on a créé des sortes de playlists avec directement des enfants qui ont été filmés et dans lequel les enseignants peuvent se connecter de telle manière que les enseignants puissent faire la pause active quand ils sentent le besoin de le faire et pas à l'horaire où c'est imposé et qui ne correspondrait peut-être pas au bon moment dans la classe. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près sur quasiment 10 000 enfants qui bénéficient des pauses,
ah oui,
des pauses actives. On est à peu près sur les quatre départements, on est autour de 400 écoles, 400 classes, une centaine d'écoles. Donc voilà, quelque chose qui se développe en mesure du temps depuis 2 ans.
Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que tu as vu l'évolution aujourd'hui des enfants qui sont peut-être passés dans un club omnisport et qui se sont mis à l'activité physique peut-être?
L'idée, c'est surtout de mesurer ce qui se passe et le ressenti des enseignants déjà.
Ouais.
Et l'effet marquant, alors l'idée, c'est de mesurer, là, on est en train de travers de questionnaires, de voir un peu comment les enseignants ressentent la chose. Un élément important en dehors de qu'on fasse bouger les enfants, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un niveau d'attention et de concentration qui est plus élevé après une activité. Et donc, quand on sait que le niveau d'attention d'un enfant, moi j'aime bien utiliser la petite formule de dire que finalement on prend l'âge de l'enfant, on le multiplie par 3 et on a son temps d'attention. Donc, un enfant de 6 ans, c'est 18 minutes. Donc, quand on voit qu'il passe la journée dans la classe, dire que si régulièrement on peut avoir des pauses, on revient, on remobilise l'enfant sur l'attention. Et je pense que c'est au bénéfice de toutes les autres disciplines de l'école.
Bien sûr, bien sûr. C'est un constat commun en fait que vous faites, si je comprends bien. L'activité, vraiment, vous êtes dans 3 sujets différents, mais on voit vraiment que l'enfant, c'est central dans vos actions.
Oui.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais.
Ouais, tout à fait. Oui. C'est de le ramener à cette activité physique. On voit bien. Enfin, les adultes, on a quand même moins de difficultés à les ramener. Il y a un rapport aux choses qui est un peu différent. Cette concentration dont il était question juste avant, l'aspect ludique peut aussi les ramener à une pratique sportive. Donc ouais, c'est vraiment important de les toucher directement. Ouais.
Bien sûr. Les enfants du Nord sont sportifs dans quelle discipline de plus? Le foot?
On a la chance d'avoir 2 gros clubs de foot. Donc effectivement, on peut parler,
ouais,
du foot. Si, ouais, on parle du rugby,
ouais,
pour le coup, ouais, non. Mais après, on a beaucoup d'enfants sportifs. Après, nous, l'idée du club de omnisport, c'est de...
Toute discipline, de toute façon.
Multidisciplinaire. Pour le principe, on a des sections sportives chez nous qui sont en haute compétition, enfin au niveau, en compétition. Nous, c'est le waterpolo,
ouais, pour notre d'accord,
club, waterpolo féminin. Et le badminton aussi. Après... Dans l'idée de créer des écoles omnisports et de faire développer, c'est aussi de pouvoir développer des compétences. Et pour le coup, pour mon témoignage particulier que j'ai fait tout à l'heure, c'est aussi travailler autour de l'itératie physique pour donner cette habitude de bouger, qu'elle soit moins perdue, comme j'entendais tout à l'heure en témoignage, quand on passe au collège ou quand, ouais, on passe au lycée. Parce que c'est vrai que les études démontrent.
Bien sûr.
et aussi de amener ensuite vers un club où parfois ils sont un petit peu en perte de vitesse, mais qui permettent de faire découvrir. En fait, c'est ça le but de nos clubs, en fait.
Tu portes le message de la compétition quand tu vas dans un club ou non, d'abord pratiquer non. une activité.
Alors, moi, personnellement, et dans notre club, on parle d'abord d'initiation.
Oui.
Et ensuite, si vraiment l'enfant a un besoin, s'il ne s'y retrouve plus, on commence à parler de compétition. Et d'abord, on parle d'initiation. D'abord, on parle de plaisir, prendre du plaisir à faire du sport. Et ensuite, si vraiment l'enfant a besoin d'aller plus loin, a besoin, s'il y a une appétence aussi pour la compétition, là, on va lui parler de compétition. Mais on parle d'abord d'initiation.
Clermont-Ferrand, c'est pareil ?
Oui, c'est pareil. Alors, globalement, au niveau de l'omnisport, c'est la même démarche ouais. que celle qui vient d'être décrite. Après, si on le ramène au hipping ou à l'activité un peu plus e-sport, il y a l'aspect ludique d'abord en fait qui vient en première ligne pour ramener le jeu et le sport au centre de l'affaire. Donc,
bien sûr. Et là, l'activité la plus rugby, je suppose, non ?
Rugby, ouais. effectivement, mais escrime, ouais. pas mal, tir à l'arc, on a ouais. une section qui performe très très bien au Stade Clermontois. Donc voilà, pas mal de sports à des niveaux plus ou moins haut, donc comme j'ai dit, l'escrime et le tir à l'arc vraiment très haut. Après, on a des sports, le tennis de table, on est au niveau national 2, donc voilà, 3e division malgré tout. Donc une culture de la performance, mais qui démarre vraiment par l'aspect initiatique, ludique, loisir, et d'amener vers la performance ceux qui ont envie d'aller vers la performance, mais pas la performance en priorité absolue dès le départ. En
fait. Bien sûr. Vous attendez à quoi avec les Jeux Olympiques ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rebond ? Il va y avoir un retour à l'activité physique et sportive dans vos clubs respectifs ?
Mais j'espère que c'est le moment.
Oui.
On n'en a jamais autant parlé.
Bien sûr.
L'idée aussi, comme ça a été évoqué, c'est parce que finalement, les Jeux Olympiques, c'est aussi la compétition.
Oui.
Et l'idée de ce qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'on sonde finalement les enfants pour avoir fait des enquêtes sur le sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants et ça arrange aussi certains parents qui puissent pratiquer une activité non compétitive. Sauf qu'aujourd'hui, autant quand on est un jeune adulte, voire un adulte, c'est facile de pratiquer une activité loisir parce que je n'ai même pas besoin d'être dans le club, hein, je prends mes baskets et je vais courir, je vais dans une piscine, oui. etc. Or, pour un enfant, ce n'est pas possible. Soit il y a des parents qui sont là pour organiser ça, soit on le met dans un club. Mais qui dit un club, dit généralement compétition. Rares sont les clubs qui sont dans une logique juste loisir. Et aujourd'hui, je crois que les clubs ont besoin, et dans le cadre d'un club omnisport, l'idée c'est permettre, notamment dans ce qu'on développe sur le multisport, donc les enfants ils viennent vraiment dans une logique de pratiquer toutes les activités dans lesquelles, bah, progressivement, ils vont peut-être en prendre un par plaisir. Parce que l'idée, c'est qu'un enfant qui a découvert une activité avant 10 ans, et qui en prend du plaisir, c'est un futur adulte sportif. Donc du coup, on peut penser à une meilleure santé. De la même manière, si cet enfant-là il décide d'aller vers la compétition, on sait que si on a une activité dans laquelle on prend du plaisir, on aura tendance à s'y investir plus. Et on sait que dans la compétition, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre deux athlètes ? La compétence égale, c'est celui qui a la compétence à se lever plus facilement le matin. C'est comme le travail, hein, finalement.
Bien sûr.
Ben là, on est dans cette logique-là. Donc on essaye aussi de pas mettre cette confrontation entre le sport, le loisir, santé, et le sport compétitif. Finalement, les enfants doivent toucher à tout, trouver une activité qui leur permettra d'être dans le loisir, peut-être un jour de revenir dans la compétition. Quoi qu'il en soit, un jour, pour des histoires peut-être d'âge, ils ne seront plus dans la compétition, ils reviendront dans le loisir. Et donc l'idée, c'est de ne pas faire barrière à ces deux autoroutes qui finalement oui. doivent se croiser de temps en temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce que vous faites le constat d'enfants qui se cherchent, qui font « Allez, tiens, ils vont essayer là, le rugby, ça ne va pas, ils repartent dans le foot, etc. » Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est important ?
De plus en plus.
Oui.
L'histoire, on voit bien, le zapping. D'ailleurs, qu'est-ce qui, sans faire de publicité sur des TikTok, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On regarde 3 secondes et au bout de 3 secondes, pas de choses. Et ouais. finalement, dans l'activité, c'est ça aussi. Donc, d'où l'idée de mettre du multi-pratique de telle manière qu'on puisse passer d'une activité à une autre et un jour ou l'autre, le temps venant, la maturité venant, on va pouvoir trouver une activité par plaisir. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus de cette problématique où ça zappe facilement.
On a parlé avec Pascal Duché tout à l'heure du passeport. Est-ce que pour vous, c'était vraiment une aubaine ça vous avez vu vraiment vous, une arrivée d'enfants dans vos clubs respectifs ou vous n'avez pas senti du tout d'impact hein?
Alors, pour nous on le prend, le passeport. Oui.
Mais est-ce que tu as vu quelque chose qui s'est passé
ça amène. Oui. Les gens arrivent avec. Ils savent, c'est l'une des premières questions qui est posée. Ma deuxième partie dans mon club, à part l'omnisport, c'est aussi le handicap.
Oui.
Et l'handicap, c'est la même chose. Ça, avec le passeport, ça permet d'amener. Donc, en espérant, pour répondre à la question tout à l'heure, oui, que les Jeux Olympiques amènent un petit peu plus.
Oui, bien sûr.
Un petit peu plus d'adhérents et aussi un petit peu plus de structure. Parce que c'est ce qui manque aussi, c'est aussi des espaces
bien sûr
pour pratiquer du sport,
oui,
même en libre. Et donc, nous, le passeport, oui, a un impact quand même, en fait.
Oui. C'est pareil pour toi?
Oui, aujourd'hui, pas tant que ça, un petit peu,
ouais,
parce que c'est un accès, on ne va pas se voiler la face, un aspect économique qui est non négligeable, donc je pense que ça favorise. Après, aujourd'hui, on a la chance dans le tennis de table d'avoir deux jeunes pousses, la famille Lebrun qui porte haut le sport, on en entend beaucoup parler,
ouais,
donc on a beaucoup de jeunes finalement à travers le bouche à oreille et on espère qu'ils feront des bons résultats aux Jeux Olympiques, mais en tout cas il y a une certaine aura qui a été créée à travers plutôt des jeunes joueurs et qui font qu'on a plein de jeunes qui viennent pour reproduire, enfin c'est un peu les schémas habituels,
bien sûr,
quand un sport gaze bien, les jeunes
viennent. Vous êtes prêt à absorber le surcroît de licenciés après les Jeux Olympiques?
Absolument pas, et c'est je rejoins ce qui a été dit
tout
à l'heure. Enfin, absolument
pas. Enfin, je structure,
je pense que la structure aujourd'hui, les structures physiques
ouais,
sont quand même saturées. Donc accueillir plus de monde, on va pouvoir un petit peu évidemment, mais ça va être limité malgré tout. S'il y a un gros afflux, ça va être compliqué. Et puis les éducateurs, aujourd'hui, c'est trouver des éducateurs sur le long terme, c'est des horaires particuliers.
Non, bien sûr, il faut spécialiser l'application.
Je pense que ça va être compliqué, mais la structure physique, les endroits où pratiquer, sur la ville de Clermont, il y en a beaucoup. Et
ouais,
on remercie la ville ouais, et la communauté, ce qu'elle fait, mais je pense qu'on a besoin de plus.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Gérard, le président, tout à l'heure, aujourd'hui, on voit une montée de plus en plus des salles privées, aujourd'hui, hein, que ce soit les CrossFit, etc., enfin les Basic Fit, etc. Est-ce que ce n'est pas une crainte aujourd'hui pour vous, Club Omnisport, demain, de voir malheureusement partir des gens du club pour aller pratiquer dans des salles privées? Parce qu'on voit aussi beaucoup de coachs qui arrivent, enfin, il y a beaucoup de choses, hein, on voit que le sport évolue, mais malheureusement, c'est un sport qui est cher. Aujourd'hui, l'avantage d'une fédération, l'avantage d'un club omnisport, c'est que la licence n'est pas excessive et qu'on peut pratiquer une activité. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on privatise le sport, pour le coup, comme ça se fait aux États-Unis d'ailleurs, hein?
Après, les moyens de chacun, le contexte actuel, n'ont pas forcément dans ce sens-là, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Toutes les initiatives privées, publiques, etc., qui font qu'on aura des pratiquants, ça sera qu'un plus. On voit bien qu'on est peut-être un peu saturé, mais s'il y avait des nouveaux, d'autres pratiquants et d'autres personnes, on serait en capacité, on ferait. Pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait d'autres structures. Au contraire, l'idée, c'est que plus on aura des capacités d'accueil et pour la pratique, et mieux ce sera.
Bien sûr, bien sûr.
C'est une pratique spécifique, les salles
oui,
de sport.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est une pratique qui ne vient pas pour les enfants.
Bien sûr.
Parce que porter des poids ouais, pour ouais, un certain âge, ce n'est pas bon pour le dos, c'est pas bon.
Bien sûr.
Ça apporte des soucis en grandissant. Après, c'est une pratique très, très spécifique. Il y a des gens qui adorent courir sur tapis, il y a des gens qui ne supportent pas, qui préfèrent courir dehors, qui préfèrent... Donc après, c'est un complément. C'est un complément qui permet d'eux. En fait.
Moi, ça m'a toujours choqué de voir... Moi, j'habite en Haute-Corrèze, et ça m'a toujours choqué de voir des gens qui courent sur un tapis alors qu'on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Et voir quelqu'un qui court sur un tapis, moi, ça me choque. Parce que je me dis, il n'y a rien de... moi, je fais du trail et je fais de la marche nordique. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux quand même que de courir à l'extérieur. Et c'est vrai que se retrouver dans une salle enfermée, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, moi, c'est mon sentiment purement personnel. Hein. Voilà.
Juste, si je peux donner...
Oui.
Dans le même sens, moi, je pratique plutôt du vélo. Je préfère effectivement sortir. Mais par contre, je trouve un bon compromis puisque bon, dans notre club, on a une salle de bike. Je prends mon 45 minutes, je fais ma séance, parce que si je faisais pas ça, en fait, finalement, j'aurais pas le temps de rentrer chez moi, prendre mon vélo, parce que
ouais,
rapidement, il faut du temps. Donc c'est un bon compromis qui permet de continuer à avoir une activité quotidienne, régulière, avec finalement, on attend toujours ce moment du week-end pour pouvoir, ou dans les, au beau jour, pouvoir sortir le soir.
Bien sûr.
Ça donne un mot équilibre. Après, effectivement, chacun essaie de trouver les solutions, mais je peux comprendre la problématique de voir des gens courir sur un tapis. Moi, ça peut rendre service.
Ouais, mais après, je trouve. Après, chacun fait comme il le souhaite, hein, mais ma fille habite à Clermont-Ferrand, elle est dans une salle. Voilà, après, moi, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est juste un avis purement personnel. Oui.
Après, c'est une construction d'objectifs, en fait.
Oui, oui.
C'est courir en soi sur un terrain. Alors, après, il y a une question de confort pour certains qui arrive aussi. Hein. C'est vrai que c'est plus agréable de courir à l'intérieur que dehors pour certains. Mais après, c'est une construction d'objectifs. C'est-à-dire que courir sur un tapis, généralement, c'est un complément qui va permettre soit de s'échauffer, soit de travailler pour sécher, hein, tout simplement, et d'aller après vers d'autres appareils qui vont travailler autre chose. Ça, souvent, c'est à ça que ça sert aussi. Donc, c'est pas tout à fait. Par contre, quand on prend ses baskets pour courir dehors, c'est un autre objectif, parce que c'est un objectif d'endurance, généralement, ou un objectif psychologique qui permet de relâcher. Mais c'est, au niveau du corps, ce n'est pas les mêmes objectifs. C'est ça aussi qui joue.
Bien sûr. Bien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs ? Vu le sport, on va dire, oui, forcément, vu le sport important, on espère qu'on aura des médailles aux Jeux Olympiques, en tous les cas, voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, ma dernière question ici, pendant ce salon des échanges, des idées, je suppose, ou...
L'objectif, c'est sortir de son quotidien.
Oui.
Parce que c'est toujours l'occasion de sortir de son quotidien où voilà, on est tous un peu la tête dans le guidon dans une activité. Le fait de sortir, de rencontrer d'autres personnes, ça peut donner des idées, des opportunités en fonction après de ses moyens, de ses façons de voir les choses. Et c'est souvent une bulle à part dans le temps qui permet de rebondir et peut-être des fois repartir sur des nouvelles motivations, sur des choses un peu nouvelles. C'est, en tout cas, moi, dans l'occasion du salon, comme cette situation, c'est comme ça que je le prends.
Bien sûr. Porte pareil.
Alors moi qui suis un peu moins dans le sport, mon activité principale n'est absolument pas dans le sport.
C'est vrai, d'accord.
C'est plutôt une activité, on va dire, bénévole au sein de l'association. Ça me permet de découvrir des choses. J'ai découvert du vocabulaire, la littératie, des choses comme ça, de comprendre des choses qu'on ne perçoit pas forcément quand on n'est pas dans le milieu.
Bien sûr.
Donc beaucoup de, on va dire, d'acculturation. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Quoi.
Ouais. Et pour toi, c'est pareil ?
Oui, nous, on est venu chercher des exemples aussi.
Ouais.
Déjà, témoigner ce que nous, on fait.
Bien sûr, c'est important, le témoignage.
Pour montrer qu'on a des projets qui fonctionnent, mais aussi pouvoir voir les projets des autres et découvrir d'autres modèles qui peuvent aussi être très intéressants. Et peut-être des projets auxquels on n'a jamais pensé, ou des méthodologies qu'on n'a jamais pensé.
En fait. Bien, parfait. En tous les cas, merci, messieurs, d'être venus ici sur Les Mers parler de sport.
Hexagone, l'émission qui va au cœur de l'univers du sport. En partenariat avec la FFCO.